Éric Bataillon.
Bonjour. Direction le Liban, où nous verrons où en est la situation politique et sociale au moment où le pays marque le 10e anniversaire de l'assassinat de l'intellectuel Sami Kassir. Direction ensuite Tel Aviv, où Muriel Paradon a vu pour Orient Hebdo une exposition photo choc sur Israël et les territoires palestiniens. Enfin, la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Le journaliste libanais Sami Kassir a été assassiné le 2 juin 2005 à Beyrouth. Il avait été pendant une dizaine d'années un éditorialiste du journal libanais arabophone An-Nahr, Le Jour. Cet intellectuel avait sur son pays un regard aux perspectives diverses. Historien, professeur de sciences politiques à l'université Saint-Joseph, journaliste, collaborateur notamment de TV5 ou du Monde diplomatique et finalement personnalité politique. Il s'est illustré notamment par ses prises de position contre la tutelle de Damas sur Beyrouth, en particulier après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en février 2005. Il a participé alors au grand rassemblement pour la souveraineté du Liban qui ont constitué ce que l'on a appelé le printemps de Beyrouth. Carole André Descentes, bonjour.
Bonjour Éric.
Docteur en sociologie et chercheuse associée au CADIS, le centre de recherche en études sociologiques. Vous étiez au Liban en début de semaine. Quel est l'état de santé politique et sociale de ce pays aujourd'hui?
Alors malheureusement, l'état de santé politique reste le même et bloqué, hein, puisqu'en fait, donc le 25 mai dernier, cela faisait tout juste un an que le mandat présidentiel de Michel Sleiman touchait à sa fin et qu'on arrive à un blocage, c'est-à-dire qu'il y a eu 23 tentatives au Parlement pour essayer de d'élire en tout cas un nouveau président, 23 échecs. En même temps, je serais tentée quand même de préciser que ce n'est pas la première fois que le Liban connaît une telle vacance présidentielle, puisqu'il faut se remonter en arrière, notamment en 2007, où on a eu une vacance de 183-184 jours après le départ de Lahoud. Et donc, il a fallu attendre tous ces jours-là pour arriver à avoir Michel Sleiman comme président. Mais si on remonte encore plus loin en arrière, effectivement, en septembre 88, donc Amin Gemayel terminait son mandat, et là, on a eu une vacance de 408 jours.
Pourquoi aujourd'hui y a-t-il ce blocage? Qu'est-ce qui gêne?
Alors, ce qui gêne, c'est qu'effectivement, donc on a les deux grandes alliances, l'alliance du 14 mars, qui est donc dirigée par Saad Hariri, donc le fils de l'ancien Premier ministre assassiné, soutenu par les États-Unis, par l'Arabie Saoudite, et qui a comme candidat, donc Samir Jaja, des forces libanaises, et on a donc toujours l'alliance du 8 mars, avec donc le Hezbollah, entre autres, soutenu bien évidemment par Téhéran, par Damas, et qui a comme représentant, en tout cas candidat, Michel Aoun, du mouvement patriotique libre. Le problème, c'est qu'effectivement, on a des jeux d'alliance entre les différents groupes, des blocages, et puis aussi, surtout, une ingérence étrangère, très clairement. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à une opposition très vive entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et cette opposition se fait par pays interposés, et le Liban est justement un des théâtres de cette opposition.
Et est-ce que ce blocage politique aujourd'hui a à voir avec ce qui s'est passé il y a 10 ans, les nombreux assassinats cette année-là?
On pourrait faire un lien dans le sens où effectivement on avait déjà un blocage et surtout cette mise sous tutelle directe par la Syrie. Je rebondis sur ce que vous dites parce que Samir Kassir, avant d'être assassiné, avait effectivement évoqué le fait qu'il fallait à tout prix sortir de cette tutelle et qu'il fallait un nouveau Liban politiquement et qu'il fallait surtout des réformes en profondeur d'un système politique qui est trop centré sur justement le système clanique, confessionnaliste, et que ça, il fallait absolument que le Liban se sorte de ça. Donc depuis 2005, finalement, la situation n'a pas plus évolué que ça. En fait, il y a eu un espoir avec ce printemps de Beyrouth, donc l'intifada de l'indépendance qui avait été aussi entre autres lancée par Samir Kassir, et qu'aujourd'hui on reste dans la même situation. Alors on a d'autres intellectuels, hein, bien évidemment, qui essayent d'appeler à une intifada de la paix, comme Samir Frangi aussi.
Mais le fait que en Syrie voisine, qui était l'élément de tutelle, on va dire, du Liban, soit en difficulté, il n'y a pas une opportunité politique aujourd'hui?
Pour l'instant, non. Ça n'apparaît pas. Ce qu'on ressent, par contre, c'est une grande lassitude, une grande fatigue. Mais le problème, c'est que pas de président, ça signifie aussi un blocage institutionnel. Israël. Ça signifie aussi un blocage au niveau de certaines nominations à des postes clés, mais également pour faire passer le budget et des lois. Ça devient extrêmement compliqué.
Alors parlons de Sami Kassir, puisque cela fait donc 10 ans qu'il a été assassiné. C'était un 2 juin, c'était donc ce mardi.
Tout à fait.
Y a-t-il des commémorations actuellement? Oui, bien évidemment, au Liban.
Oui, alors justement, la fondation Samir Kassir, qui a été créée en 2006 par son épouse et des proches, commémore chaque année, enfin, à travers cette commémoration, lance ce qu'on appelle le Festival de Beyrouth. Et cette année, il a commencé début mai. Donc, et il se termine ce soir, samedi, par justement un spectacle pour commémorer, alors, 2 choses. Un, Samir Kassir, ses idées aussi. Et puis également l'histoire de Beyrouth, puisque Samir Kassir a travaillé aussi et avait publié un livre sur l'histoire de Beyrouth. Et ce spectacle sera une façon, là aussi, de renouer justement avec l'idéal, les idées, le fait de défendre aussi la démocratie et de vouloir aussi un pays qui se tourne plus vers une forme de politique plus progressiste et qui surmonte aussi le système confessionnel et clanique. Donc c'est tout ça aussi que la Fondation tente de revendiquer. En tout cas.
Et ce message de Sami Kassir, pour plus d'universalité d'une certaine façon, oui. Est-ce qu'il est porté aujourd'hui par d'autres personnes?
Oui, il y a d'autres personnalités justement qui font un travail à ce sujet, notamment Samir Fangier, qui lui reprend aussi ce travail, qui a été aussi un des membres actifs de cette intifada de l'indépendance et qui aujourd'hui lance ce qu'il appelle l'intifada de la paix et le vivre ensemble. C'est-à-dire que lui aussi porte ce message, à savoir surmonter ce système confessionnel, être libanais avant tout et promouvoir justement une réforme en profondeur d'institutions qui sont tout à fait bloquées et mettre en avant cette situation, cette citoyenneté libanaise, puisqu'on se rend compte que en dépit de ce qui s'est passé, on est revenu à un système clanique extrêmement fort où on va suivre son chef. Voilà, son leader, sans forcément remettre en question ce qu'il peut mettre en avant.
Merci Carole André-Desormes, sociologue, consultante en géopolitique. Je renvoie à votre blog que l'on peut aller voir sur Internet, Géopoldia.
Merci.
Display, c'est une exposition choc visible actuellement au musée d'art de Tel Aviv. Cet endroit, en français, est une évocation très libre d'Israël et des territoires palestiniens à travers le regard de photographes. Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante permanente à Jérusalem. Vous avez vu cette exposition? Qu'a-t-elle d'original?
Alors, c'est une exposition qui ne met pas en valeur le travail d'un seul, mais de 12 photographes, tous étrangers, ni israéliens, ni palestiniens. Et la plupart sont des artistes, pas des reporters. Le photographe qui a initié le projet, le français Frédéric Brenner, ne voulait pas d'images déjà vues de journalistes qui prennent sur le vif des faits d'actualité, le conflit au Proche-Orient, mais il souhaitait un autre regard sur Israël et les territoires palestiniens. Il s'en explique, Frédéric Brenner.
J'ai identifié les artistes contemporains qui utilisent la photographie pour poser des questions. Des questions difficiles, des questions qui parfois font mal. Et bien sûr, pas des journalistes, pas des photoreporters. L'idée, c'était de leur donner le temps, pas une semaine, pas un mois, mais 6 mois, ce qu'aucune rédaction ne donne aujourd'hui. Et donc, une invitation et carte blanche pour réaliser des images comme ils en réalisent d'habitude et continuer à tirer le fil rouge de leur propre œuvre.
Alors justement, Muriel, qu'est-ce que cela donne en images?
Des images très différentes, hein, selon les photographes. Il y a par exemple une série de prises aériennes du désert du Negev, dans le sud d'Israël, qui évoque la disparition de villages bédouins. Des photos en noir et blanc de différentes communautés, communautés noires en Israël notamment. Des portraits de familles, de colons en Cisjordanie. Plusieurs séries m'ont beaucoup marqué, mais on ne peut pas toutes les citer évidemment. Il y a par exemple le travail très fort de Joseph Koudelka, quelqu'un issu pour le coup du photoreportage de l'agence MacDom. Il a photographié le mur qui sépare Israël des territoires palestiniens, un travail à la fois très esthétique et très dur. Frédéric Brenner en parle.
Il a fait un travail de documentation, donc d'un côté et de l'autre du mur. Il a sillonné cette barrière qui a été érigée sur 790 km, je crois. Et Joseph le dit, pour lui, vraiment son propos, c'est défendre la Terre. La Terre qui ne peut pas se défendre, lui en gros, il est l'ambassadeur de la Terre à travers ce projet, et il dit comment des êtres qui prétendent que cette Terre est sainte, comment peuvent-ils la violer d'une telle façon ? Lui infliger une telle violence.
La violence dans ce travail sur le mur en Cisjordanie, est-ce que cette violence est présente, Muriel, dans d'autres séries photographiques ?
Oui, en fait, elle est partout, de manière sous-jacente, même s'il n'y a pratiquement aucune photo de guerre. Ce sont des travaux artistiques, pour la plupart, qui représentent des paysages ou des gens, mais en dehors du conflit. Pourtant, cette violence est bien là pour représenter ce qu'est cet endroit, This Place, Israël et la Palestine. C'est ce que dit aussi Nili Goren, la responsable de la photo au Musée d'art de Tel Aviv.
The interpretations in general conclude to a very hard view.
L'interprétation des photographes conclut en général à une vision très dure de cet endroit et de ses problèmes. Il y a une dimension poétique dans l'exposition en général. C'est beau, c'est quelquefois métaphorique, voire lyrique. Mais quand vous allez en profondeur dans chaque image, vous vous rendez compte qu'elle est très dure et difficile.
Et le public, Muriel, comment réagit-il ?
Alors le public étant en majorité israélien, il y a quelques touristes, mais ce sont surtout des Israéliens. Les Palestiniens ne peuvent pas se déplacer facilement, vous le savez, ils vivent sous occupation israélienne. Et les personnes qui voient l'exposition sont souvent bousculées par ce regard artistique extérieur, puisque les photographes sont étrangers. Je vous propose d'écouter Tal, une étudiante israélienne.
Quand je suis entrée dans l'exposition, j'ai d'abord vu de l'art. Les photographes se sont attachés à la lumière, à la composition. Ensuite, il y a de la politique. Il y a de la politique, mais d'abord de l'art. Et j'ai trouvé cela très intéressant. Et puis, ils sont plus objectifs, ils montrent les deux côtés. D'habitude, les photographes montrent soit le point de vue juif, soit arabe. Là, non. C'était intéressant pour cela aussi.
Et puis, il y a de vraies surprises pour certains. Après avoir vu le travail de la photographe américaine Wendy Ewald, qui a donné des appareils photo à 14 communautés en Israël et en Palestine, des gens qui se sont photographiés eux-mêmes dans leur vie quotidienne et intime, Aviv, une étudiante israélienne, a découvert, dit-elle, l'univers de Palestiniens qu'elle ne côtoie pas.
Je ne pense pas avoir vu d'art venant de gens de Cisjordanie. Je n'ai jamais communiqué avec des gens comme ça. C'est sûrement le contact le plus poussé que j'ai jamais eu avec eux. Alors c'est vraiment intéressant.
Voilà donc pour cette exposition This Place à Tel Aviv en ce moment, exposition qui a été déjà présentée à Prague et qui va voyager prochainement aux États-Unis.
Merci Muriel Paradon, envoyée spéciale permanente de RFI à Jérusalem. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.rfi.fr ainsi que sur le site de l'exposition www.this-place.org.
Écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Alexandre, l'expansion inexorable de Daesh, l'État islamique, est à la une de tous les journaux panarabes.
Oui, et les journaux indiquent qu'en Syrie, l'État islamique, Daesh, est sur le point de prendre la ville stratégique d'Al-Hasaka, au nord-est du pays. Alors, Al-Hasaka est un des derniers bastions du régime de Bachar al-Assad au nord. Selon les journaux, ce sont des kamikazes qui ont permis une percée dans les défenses des forces régulières. Il y a eu pas moins de 8 véhicules chargés d'explosifs qui se sont précipités sur les barrages de l'armée syrienne aux abords de la ville. Alors en Irak, ce sont des barrages aussi, mais les barrages sur l'Euphrate qui sont visés par l'État islamique. Daesh contrôle déjà, selon la presse, 3 barrages et cherche à se saisir d'un barrage stratégique, Al-Hadassa, dans la province d'Al-Anbar. Alors, pour les éditorialistes, après les puits de pétrole, Daesh veut maintenant se saisir des sources d'eau, ce qui lui permettrait d'assoiffer une bonne partie du sud du pays. Pour un éditorialiste, l'Iran est aujourd'hui le seul capable d'arrêter l'avancée de Daesh, quelque chose que les pays du Golfe ne voient pas d'un bon œil.
Également, Alexandre, le journal Al-Quds Al-Arabi consacre un long article à la remise en cause de la Constitution par un parti islamiste tunisien.
Oui, il s'agit en fait de son chef, le cheikh Adel El Alami, qui est chef du parti Tunis Al-Zaytouna, qui a déclaré que certains articles de la Constitution étaient impies et devaient être amendés pour respecter la charia. À la manière de l'État islamique, Al Alami s'est aussi insurgé contre l'existence d'associations pour la défense des droits des homosexuels qui, selon lui, doivent être tout simplement tués. Il a aussi appelé à légaliser la polygamie conformément à l'islam. Selon lui, la polygamie est favorable aux droits des femmes puisqu'elle leur permet de trouver un mari.
Christian Brunel, ce qui fait la une de la presse israélienne cette semaine, ce sont les menaces de boycottage du pays.
Tout à fait, les journaux, les radios, la télévision, les sites d'information ont fait leur une et consacrent éditoriaux et commentaires contre BDS, abréviation de boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël et sa politique de colonisation. Ce mouvement, créé à l'origine par des ONG palestiniennes, a pris une dimension internationale au point de devenir un ennemi à abattre, ou même, comme l'affirme le quotidien Yediot Ahronot, une menace existentielle pour Israël. Mais de quoi s'agit-il ? Tout est parti de la récente tentative avortée des Palestiniens d'exclure Israël de la FIFA, la Fédération internationale de football. La principale association d'étudiants britanniques a ensuite appelé à boycotter Israël. Aussitôt, Benjamin Netanyahu et des éditorialistes sont montés au créneau pour dénoncer cette tentative qui vise, selon eux, à nier toute légitimité à l'existence d'Israël. Mais ce n'était qu'un début. Le coup le plus dur est venu du Caire. C'est en effet dans la capitale égyptienne que Stéphane Richard, le patron français d'Orange, a lancé une véritable bombe médiatique.
Et les médias s'en sont violemment pris à lui, Christian.
Oui, et alors que BDS n'était jusqu'à présent qu'un danger désincarné, désormais cette menace a un nom et un visage pour les médias israéliens, celui de Stéphane Richard qui a affirmé qu'il souhaitait mettre fin le plus vite possible au contrat qui le lie à un opérateur téléphonique israélien indépendant, autorisé à utiliser la marque et le logo d'Orange. Tous les médias ont réagi au quart de tour pour dénoncer ce qui est présenté quasiment comme un coup de poignard dans le dos. Les journaux et les réseaux sociaux ont publié les photos de drapeaux israéliens recouvrant les panneaux publicitaires d'Orange devenus du jour au lendemain la bête noire des Israéliens.
Chez vous aussi, Alexandre, plusieurs journaux reviennent sur cette affaire Orange et sur l'efficacité des campagnes de boycott.
Oui, tout à fait. C'est à la suite d'une campagne de boycott contre l'opérateur Mobinil, qui est la filiale égyptienne d'Orange, que la compagnie française a annoncé son souhait de mettre un terme à la licence de marque en Israël avec l'opérateur Partner. Alors, Partner est accusé, côté égyptien mais aussi arabe, d'opérer dans les colonies de peuplement et de soutenir la campagne israélienne contre Gaza l'été dernier, et cela sous le logo d'Orange. Alors, Orange craint de perdre quand même un de ses meilleurs fleurons, 33 millions de clients pour Mobinil l'Égypte, et pour l'intellectuel libanais Clovis Maksoud, les violentes réactions israéliennes à la campagne de boycott sont la preuve que cette dernière commence à donner des fruits. Quant aux militants du collectif BDS Égypte, ils ont déclaré qu'ils allaient poursuivre leur boycott d'Orange en Égypte.
Christian, les médias israéliens s'intéressent aussi aux shorts des jeunes filles et aux sandwichs non cachers.
Oui, des centaines de lycéennes se sont mobilisées sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'interdiction de porter des shorts dans les établissements scolaires afin d'éviter de troubler les garçons. Plusieurs d'entre elles ont expliqué que dans un pays démocratique, chacun est libre de s'habiller comme il le veut. La deuxième affaire qui a fait grand bruit porte sur un sandwich au jambon de cochon dont la consommation est interdite par le judaïsme et qu'un soldat avait osé manger dans une base militaire. Dans un premier temps, il a écopé de 11 jours de cachot, mais cette punition a provoqué un tel scandale que l'armée a renoncé à sanctionner le soldat et assuré qu'elle n'avait aucune intention de mettre son nez dans chaque sandwich.
Et très naturellement, Christian, votre dessin du jour évoque l'une de ces deux affaires.
Oui, le Haaretz se publie une caricature où l'on voit quatre jeunes filles en short dans le bureau de Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, qui répond à leur colère en leur disant sur un air sceptique « Il faut d'abord que j'en parle au rabbin ».
Merci Christian, merci à Alexandre, à la réalisation Boris Vichit. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite un nouveau journal.